Un podcast France Culture.
À côté de HIV1, il existe donc une autre série de virus, les HIV2. Il y en a 9. Et ceux-là ne sont pas totalement devenus pandémiques. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé.
Quatrième épisode. Les variants se partagent le monde.
Alors HIV2 ne démarre pas en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, dans le territoire de l'actuelle Guinée-Bissau ou aussi dans la forêt de Thaï qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc on est encore dans des espaces forestiers, c'est normal puisque le réservoir est constitué par des singes. Alors ce ne sont pas les chimpanzés là, ce sont des singes tels que les singes verts, les singes mangabés. Et on va avoir la même histoire que ce qu'on a pu voir au début à Léopoldville, mais un peu plus tard, parce que la transmission s'est faite un peu plus tard. Mais rappelez-vous que la Guinée-Bissau a acquis son indépendance plus tard, puisque c'était une colonie portugaise. Et jusqu'en 1975, le Portugal avait la main sur ses colonies.
La maladie du sommeil ravageait des régions entières. Des groupes mobiles vont la dépister de village en village. Le chef indigène, qui comprend l'importance de la visite médicale, pour lui donner un caractère de solennité, amène avec lui son orchestre. On pique le bout du doigt, on examine la goutte de sang. Les suspects, dont le nombre de 60% est tombé à 1%, sont décorés d'une croix blanche. On procède alors chez eux à une prise ganglionnaire pour examen plus approfondi. Plus d'un million de travailleurs sont ainsi visités chaque année.
Et justement, des campagnes étaient organisées avec ces injections répétées et le HIV2, virus différent de HIV1, vraiment différent, mais avec les mêmes modes de transmission, a profité de ces injections à répétition pour commencer à se développer, à prendre de la puissance et puis à améliorer sa transmission. Et HIV2 a accompagné les Portugais et surtout les forces coloniales, les déplacements de population vers l'Angola, vers le Mozambique. Et on va retrouver ce virus-là essentiellement en Afrique de l'Ouest et un peu en Angola et au Mozambique. À partir de 1975, ces campagnes d'injection répétées diminuent très fortement. C'est l'indépendance, ça n'est plus une priorité. Et le HIV2 va avoir moins d'occasions, il n'a peut-être pas eu tout à fait le temps de s'adapter. Il est moins transmissible par les rapports sexuels. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que HIV2, un, n'a pas donné de pandémie. Une pandémie, c'est une infection qui va toucher plusieurs continents, on va dire. Donc il est pratiquement resté sur le continent africain, sur la partie ouest du continent africain, avec des cas, mais plutôt des cas importés en Europe. HIV2 n'est pas devenu pandémique et même a tendance maintenant à régresser. C'est-à-dire que la simple transmission sexuelle, hétérosexuelle, qu'on a en Afrique, ne suffit pas pour diffuser HIV2. Comme la maladie est longue, les gens contaminés il y a des dizaines d'années sont toujours positifs. Il y a toujours des cas, mais ce qu'on pourrait appeler le R effectif, en quelque sorte, est inférieur à 1 et on a tendance à une régression. HIV1 a eu un destin complètement différent, enfin, pas tous les HIV1, un des HIV1, qui est HIV1M, qui est le seul à être devenu pandémique. On l'a laissé, il était à Léopoldville, qui devient Kinshasa en 1960, avec l'indépendance. Et l'indépendance, c'est une situation qui a été extrêmement compliquée dans ce pays qui devient le Zaïre.
C'est dans l'émeute et le sang que se sont déroulées les premières heures de la nouvelle République congolaise, née de l'ex-Congo belge. Léopoldville reste encore vide et muette, prostrée dans la stupeur et l'effondrement après les violences des derniers jours.
Les Belges s'en vont. Ils n'avaient pas formé de médecins africains, donc il n'y a pas de médecins congolais pour leur succéder. Il y a très peu de personnes qui ont fait des études. Et pour faire fonctionner le pays, donc il est fait appel à des personnes qui viennent d'autres régions du monde, et tout particulièrement d'Haïti. Haïti parce que c'est un pays francophone, comme le Zaïre. Il y a une population noire qui a des liens avec l'Afrique. Et en plus, il y a un dictateur, Papa Doc puis de Baby Doc, et les tontons Macoute qui poussent finalement un certain nombre de personnes à chercher un espace ailleurs. Tout ça fait qu'il y a pas mal de médecins haïtiens et d'universitaires haïtiens qui viennent aider au développement du Zaïre. Il y a une pauvreté très importante. Kinshasa se développe à une vitesse grand V, avec énormément de prostitution, une prostitution plus à risque, et le sida commence à prendre des proportions importantes, et puis va diffuser sur l'ensemble du Zaïre. Avec cette diffusion, il y a une diversification. C'est-à-dire qu'on va trouver à Kinshasa une grande variété de virus. Ils ont évolué pendant des années et donc ils commencent à se différencier. Et on va voir une diversification et l'apparition de variants. Et ces variants vont avoir des destins différents. Il y a un variant qui va donc vers Kisangani, qui est le variant A, et qu'on va retrouver ensuite plutôt en Afrique de l'Est, et puis aussi dans les pays d'Asie centrale et même d'Europe de l'Est. Il y a un variant C qui est plutôt à Lubumbashi et qui va coloniser toute l'Afrique australe et une partie de l'Afrique de l'Est. Il a même la particularité d'être plutôt plus transmissible que les autres. On va parler du variant B, mais encore d'autres variants, le variant G qui va plutôt aller en Afrique de l'Ouest. Il va faire un peu concurrence à HIV2, mais il est plus adapté. Et puis, il va y avoir des recombinants entre variants, mais comme des deltacrons pour le coronavirus. Il y a un recombinant AG qui devient prédominant en Afrique de l'Ouest. Et ce variant B, lui, est un variant qui est rare dans le Zaïre de l'époque. Mais il se trouve que probablement une personne va l'attraper. Un Haïtien, on ne sait pas si c'est un médecin, et va rentrer en Haïti. Et donc on est en Haïti, on arrive dans les années 75, 76, 77, et ce pays est dans une situation déjà difficile. Il y a à la fois la pauvreté et beaucoup de business, et une manière assez sauvage de faire du business, un peu américaine. Les plus forts exploitent les plus faibles. Il y a déjà des bidonvilles, il y a déjà de la misère et des gens vendent de leur sang. Et donc se créent des usines à prélèvement de sang, en quelque sorte, où les personnes donnent leur sang. S'ils ne donnent que leur sang, ils sont obligés de revenir tous les X temps, mais on leur demande aussi s'ils veulent donner leur plasma, et ça c'est plus facile. On prend le sang, on met les globules rouges de côté, on prend le plasma, et puis on réinjecte les globules rouges. Pour arranger les choses et peut-être aller plus vite, il arrive que le sang de plusieurs personnes soit mélangé, soit poulé et réinjecté. Vous voyez très bien les risques, non seulement de transmission, mais les risques de transmission avec des formes accélérées, des formes très graves et très rapides de sida, puisque tout d'un coup, là, c'est pas une micro-goutte dans une seringue, c'est des litres ou des demi-litres de sang qui sont comme ça injectés, passés dans des tubulures, réinjectés, etc. On peut penser que les précautions étaient minimales. Et c'est très probablement, alors là évidemment c'est juste des hypothèses, mais l'explication de cette flambée du sida en Haïti fin des années 70, tout début des années 80, avec une transmission beaucoup plus rapide qu'une transmission sexuelle. Toujours est-il que ce que l'on sait, c'est que on n'a pas une grande diversité des agents du sida. Il y en a plein, pourtant, là, en Afrique. Il y a A, B, C, D, on va jusqu'à G, etc. Là, on n'a que du B. Donc, on a ce qu'on appelle un effet fondateur. C'est une personne qui l'a amené, et cette personne toute seule est à l'origine d'une propagation extrêmement rapide du virus. Et c'est pour ça qu'on cherche des modes de propagation liés plutôt aux transfusions, aux dons de plasma, aux dons du sang, que des modes de transmission sexuelle. Évidemment aussi, Haïti est le lieu de tourisme sexuel entre les États-Unis et Haïti. Et puis, le sang collecté en Haïti est revendu, ça part partout dans le monde. Et finalement, dans la première émission, le premier épisode, j'avais parlé des 4 H. On avait très bien compris le H des hémophiles à cause des produits sanguins. On avait bien compris le H des homosexuels. On avait compris celui des héroïnomanes, mais les Haïtiens, c'était pas très clair. Mais probablement, c'est parce que le point de départ, c'est la contamination d'Haïti par ce commerce du plasma et du sang qui va très vite passer en l'espace d'un an ou deux aux États-Unis, puisqu'on est sur une transmission par voie intraveineuse avec des inoculums, des quantités de virus qui sont massives. Et voilà comment, à partir d'une maladie africaine, on se retrouve à une maladie qui devient visible aux États-Unis avant même d'être visible en Afrique, bon, au bout de quelques années, 84-85.
Texas, les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique. C'est un fléau, une maladie qui affecte la communauté homosexuelle et elle contamine maintenant la communauté hétérosexuelle, les enfants et les bébés.
La pandémie devient manifeste fin des années 70, début des années 80. 60 ans après le passage chez l'homme. Et, par exemple, la communauté africanaire, blanche d'Afrique du Sud, est contaminée par le variant B, alors que les Noirs d'Afrique du Sud sont contaminés par le variant C. Donc on a une géographie du virus qui traduit beaucoup de choses, beaucoup plus que la simple idée qu'une personne en contamine une autre. Il se passe plein de choses autour de ça. Pour résumer toute cette histoire de la pandémie du sida, on voit que d'abord on a de temps en temps des passages de l'animal à l'homme, et la plupart du temps ça ne donne rien. Ça n'entraîne rien, et probablement avant 1920, il y a eu des passages, les chimpanzés étaient déjà contaminés, ils étaient déjà chassés, il y a eu des passages du chimpanzé à l'homme, et puis il ne s'est rien passé parce que la personne a pu contaminer son entourage proche, et puis la maladie s'est arrêtée. Là, on voit bien qu'il faut donc des conditions particulières, que ces conditions particulières, elles ont un déterminisme historique et géographique. Tout ça pour dire que une maladie virale, bien sûr, c'est quelque chose de naturel. Bien sûr, on dit que quand on va déranger les écosystèmes forestiers, on prend des risques, etc. Mais en fait, c'est infiniment plus complexe que ça. Et on a beaucoup de choses à apprendre de ces histoires-là et de la manière dont un virus, le HIV1M, s'est adapté à l'homme pour que ces variants donnent une pandémie qui touche maintenant 40 millions de personnes qui vivent avec ce virus sur la planète.
Mécanique des épidémies, deuxième saison, le sida. Par l'épidémiologiste Renaud Piarou. Réalisation Clément Nouguier. À la technique Nicolas Delmas. Conseillère au programme Camille Renard. Avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À suivre, troisième saison, la grippe.
Un podcast France Culture à écouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.